Nous sommes en juin 2011, vous écoutez Proxy Jeux, et l'hiver vient.
Les Stark, les Lannister, les Baratheon achètent leurs jeux chez Philibert.
Bon, vous l'aurez compris, on fait un dossier spécial aujourd'hui, et on va vous parler du Trône de Fer. Et donc si à vous aussi ce générique dit quelque chose, c'est que vous avez forcément regardé la série du Trône de Fer, celle qui a été tournée par HBO, qui est diffusée actuellement sur Orange, depuis le 5. Je crois que ça passe le dimanche soir, 20h40, tous les dimanches soirs. On va être là au numéro 3 ou au numéro 4 quand vous écouterez cette émission. Vous êtes certainement fan de la saga littéraire, et puisque vous écoutez Proxy Jeux, ça veut dire que vous connaissez le Trône de Fer, le jeu de plateau. Il y a tout un tas de produits dérivés du Trône de Fer, et donc c'est de ça qu'on veut vous parler ce soir. Ça va, Jérémy ?
Ça va.
Bon.
On va espérer, même ceux qui ne connaissent pas encore le Trône de Fer, on espère vous donner envie de découvrir cette saga.
Ouais, c'est une saga qui a commencé en 96. Ça fait plus de 15 ans que ça existe. C'est George Martin qui est né à Bayonne. Enfin, pas à Bayonne en France, hein, Bayonne dans le New Jersey. C'est bien le New Jersey ?
C'est ça.
Ouf. Qui s'y attelait. Alors, George Martin, c'est quelqu'un qui a d'abord commencé par la littérature, puis qui s'est orienté ensuite vers le cinéma. Je ne sais pas si tu te rappelles de La Belle et la Bête. Ça passait, à mon avis, quand...
Je connais une seule version. Il y a Disney et une autre en noir et blanc.
Avec Jean Marais ou je ne sais pas quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Non, bah, c'est l'un des autres.
Ah bon.
Donc, c'était pas terrible. Il a fait aussi La Cinquième Dimension. Puis il est revenu à la littérature et là, il a fait son plus grand chef-d'œuvre, le Trône de Fer, qui n'est pas fini, puisque au quatrième tome en anglais. Le cinquième sort le 12 juillet prochain. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous en parle. Et je crois qu'il a en prévision 7 tomes, donc il y a encore au moins 2 tomes qui ne sont pas écrits.
C'est comme Harry Potter, dis donc.
Oui, sauf que J.K. Rowling, elle a tout écrit, elle est assez jeune, alors que George Martin, il est quand même plus de 63 ans.
Il serait peut-être temps qu'il s'y mette, hein, le George, là, à finir tout ça. Hein.
Ouais, ou qui publie. Alors, il y a deux sources d'informations sur le Trône de Fer, c'est les Gardes de Nuit et puis son blog à George Martin. Je vais peut-être mettre un commentaire pour lui demander de mettre ses états de santé, tu sais.
On va demander est-ce qu'il y a un état de publication de l'état de santé.
Pour voir s'il faut continuer à lire ou pas.
On s'en fout de l'état de santé de nos présidents, mais lui, ça compte.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une saga qui est très prenante. Il y a des cycles, en fait, si vous avez lu jusqu'au... Alors, on va s'arrêter là. Je lis les bouquins en anglais. Donc, moi, j'en suis arrivé au milieu du quatrième. Toi, Jérémy, tu dois en être au 12e, quelque chose comme ça.
Les bouquins anglais sont traduits en français en deux ou trois volumes à chaque fois.
Chez Pygmalion.
Voire même quatre, en fait, pour certains. Enfin, bref.
Chez Pygmalion,
j'ai lu. Chez Pygmalion, et après, c'est chez J'ai lu, ouais. Je pense que c'est un moyen pour eux de financer la traduction. Parce qu'évidemment, au lieu de vendre un seul livre à 20 euros, ils vont vendre plusieurs. Parce qu'il y a quand même un sacré boulot de traduction, on en reparlera. Je me suis lancé dedans il y a déjà 5 ans. Et voyant que le tome suivant allait tarder à venir, je me suis arrêté en fait dans le quatrième, au milieu du quatrième. Donc dans les bouquins français, je ne sais plus, j'en suis au 10e ou 11e volume. Mais maintenant, le fait de découvrir la série télé, ça me redonne envie de me plonger dedans. Donc,
C'est ça. Et tu as dû t'arrêter au 11e ou au 10e, le chaos et les sables de Thorn. Donc le Trône de Fer, c'est de l'heroic fantasy. Ça se passe sur une île qui n'est pas sans rappeler la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre, avec au nord le mur, qui est un mur qui est censé protéger Westeros des attaques des sauvageons.
Plus juste une aparté.
Déjà ?
Ouais, enfin, c'est pas une aparté, c'est une précision.
Oui.
En fait, quand on dit que ça ressemble à la carte d'Angleterre, c'est quand même assez flagrant, hein, je veux dire. Vous voyez pas l'image, je montre ici, Olivier. Une carte de l'Angleterre, on voit bien ici l'île qui correspond à l'île de Pique, des chers, je sais plus qui. Et au nord de l'Angleterre, en fait, les Romains avaient construit. Alors, je sais plus, c'est le mur d'Antonin, en 139 après Jésus-Christ. avait déjà construit un mur au nord de l'Angleterre pour faire barrage aux invasions barbares.
Il faut savoir que le système climatique fonctionne un tout petit peu différemment sur Westeros que chez nous, puisque les hivers sont variables et surtout les étés sont plus ou moins longs. Et là, lorsque...
C'est un peu comme en 2011, en fait, cette année, quoi.
Voilà.
Enfin, pour nous, en France.
Voilà, c'est ça. C'est un... Il s'est projeté, Martin, et puis s'est dit, tiens,
voilà.
Je vais faire une allégorie du changement climatique.
Donc sur Westeros, c'est quand même plus long. Un été, ça peut durer 15 ans.
C'est ça. Donc là, quand l'histoire commence, c'est la fin d'un très long été. Donc avec des jeunes gens qui n'ont encore pas connu de vrai hiver, avec un hiver qui s'annonce très très rude. Et ça raconte les luttes de pouvoir, d'influence, des grandes maisons qui forment ce royaume. Donc il y a 9 maisons, il y a une maison Targaryen mais qui est un petit peu particulière puisque c'est une maison qui n'existe pas ou plus. Et puis, il y a les Stark, les Baratheon, les Lannister, les Tully, les Greyjoy, les Arryn, les Tyrell et les Martell. Et quand l'histoire commence, on a Robert Baratheon qui est sur le trône, Jon Arryn, donc la maison Arryn, qui est décédé, qui était son bras droit, enfin, c'était la main du roi. Enfin, c'était lui qui...
Le ministre.
Ouais, ouais, et puis c'est lui, en fait, qui dirigeait le pouvoir, dirigeait le royaume à sa place. Et il est marié avec Cersei Lannister, la maison des Lannister, qui paye toujours ses dettes.
C'est vrai, c'est une magnifique maxime.
Alors, vraiment la particularité de cette saga, c'est qu'on a des personnages qui sont très tranchés, on a des vrais méchants, on a des gentils qui ont des principes et qui meurent pour leurs principes. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est que George Martin ne fait aucun cadeau à ses personnages. Et on s'y attache, mais il faut pas.
Ouais, en fait, les premières fois que certains de ses personnages principaux meurent, on s'y attend pas.
Non, on n'y croit pas.
Après, par contre, bon, après, on prend l'habitude de tous les voir. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment les générations qui se succèdent dans le... Et même ceux qu'on pense qu'ils vont rester jusqu'à la fin, bah non, pas toujours.
Non,
même la nouvelle génération ne réussit pas toujours à survivre. Non, ça...
C'est ça, il faut pas
dire. D'ailleurs, l'allégorie, je trouve, quand il dit l'hiver vient, c'est non seulement l'hiver climatique, mais on sent aussi qu'au niveau.
Ça sent le sapin.
C'est ça. Vraiment, pour tout le monde, c'est pas très gai l'avenir.
Alors, il y a deux choses dont on. Donc, un royaume médiéval avec des joutes, des jeunes gens qui sont faits. Qui sont des otages des grandes maisons, ça c'est rigolo. On a des Greyjoy qui sont otages des Lannister.
Non, pas
des. On a des Greyjoy qui sont l'otage des Stark. On a des mariages dans tous les sens. On a des banquets, on a des choses comme ça. Et il y a deux phénomènes extérieurs et qui mettent un peu la pression là-dessus. C'est au nord le mur avec les sauvageons qui sont une menace pour Westeros. Et puis à l'est. On a les deux derniers descendants des Targaryens.
Que personne ne sait qu'ils ont survécu sur Westeros.
Chut, au début, on ne sait pas.
Ah ouais, pardon.
Non, très vite, on va le savoir. Enfin, dans le premier, je crois que c'est dans le premier volume, on sait que les descendants ont émigré. Et l'histoire, c'est de savoir comment on va régler leur cas. Si on va leur faire leur fête ou pas. Si on va les laisser vivre, et si c'est une vraie menace, puisqu'ils sont que deux, un garçon et une fille, et donc les descendants du dernier roi démon. Et voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pitch de cette saga. Voilà. Donc, depuis cette année, et depuis d'ailleurs le mois de juin, on a HBO qui a tiré une série de cette histoire. Le premier épisode de la série a été diffusé le 17 avril 2011. Et là, on en est au 9e ou au 10e épisode de la série, qui en compte 10 par saison. Et chaque saison doit représenter normalement un livre. Donc normalement, il va y avoir, selon l'état de santé de Martin, peut-être 3, 4, 5 ou 7 saisons.
Obligé.
Voilà. En France, il y a un petit peu de retard. C'est Orange qui a pris la main sur cette série et qui la diffuse le dimanche soir à 20h40 sur Orange
Cinéma Série.
Cinéma Série. Et on en est normalement. Alors, quand vous écouterez ce podcast, si vous ne tardez pas, on devra en être au troisième ou au quatrième, peut-être au deuxième. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont passés. Ça se trouve sur Internet, ou si vous avez un cousin en Amérique qui peut vous envoyer ça. Ou la VOD d'HBO, bon, voilà.
Ouais, parce que Orange, c'est bien la première fois que je vois, enfin, je suis pas très au courant non plus, mais qu'une série télé est diffusée avant tout sur une chaîne
Une chaîne
internet
privée?
plutôt que sur une chaîne télé. Mais du coup, bah, ceux qui sont pas chez Orange,
Oui, mais
prenez
l'avantage.
pas, résiliez pas votre abonnement free ou neuf, hein, allez plutôt sur internet.
Voilà. C'est mal. Mais non, enfin, on ne vous le conseille pas.
Non, pas du tout.
D'un autre côté, ça
Mais
a
comme ça, vous
permis.
verrez tous les épisodes avant.
Voilà. Et puis, on va en parler de la traduction, mais bon, moi, j'aime bien la VO sous-titrée.
Il n'y a pas la VO. Ah, Orange, peut-être qu'il donne aussi une VO sous-titrée, non?
Bah, j'espère. Bon,
En
cela
tout
dit.
cas, les gens comprendront qu'on n'a pas regardé les versions Orange.
Cela dit. Oui, ça a permis à ce que ce soit diffusé très rapidement. On n'a pas attendu un an avant de voir la série sortir en France. Et ça, c'est bien. Faut saluer Orange pour ça.
Ouais,
Peut-être.
je sais pas.
Ok. Bon, alors, j'adore. Je suis fan. Je pense que c'est vraiment une des meilleures transcriptions de série que j'ai jamais vue. Enfin, il n'y a pas si longtemps sorti Left 4 Dead. Non, pas Left 4 Dead.
Walking
The Walking
Dead.
Dead. The Walking Dead. Et j'ai pas adhéré des masses. Donc, si
Par
vous ne
rapport à la
connaissez
BD.
pas The Walking Dead, ben allez-y parce que c'est une vraiment très 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 bonne série. Si vous êtes fan de zombies, il faut absolument d'aller voir Walking Dead. Bon, Walking Dead, c'est aussi une série, mais je suis pas sûr qu'elle soit chez HBO, qui a pas été traitée de façon à coller avec
La
le
BD.
comic, et c'est moins bien. Enfin, moi, j'ai pas adhéré. Alors que là, on retrouve les mêmes personnages, on a une construction qui est vraiment très intéressante parce que on a la présentation des différents personnages. Alors, c'est plus du point of view, c'est quelque chose un petit peu plus télévisé. Excusez-moi. Mais c'est très bien fait.
Non, on retrouve quand même un petit peu hein, les points de vue. Enfin, je sais pas,
Les points de
c'est
vue?
comme. Ouais, enfin, on essaie de suivre. Pour l'instant, dans le premier épisode, forcément, il n'y a pas encore. Tout se passe. Toute l'action se passe à Winterfell, mais ensuite, je pense qu'on arrivera à peu près à suivre.
Bah, t'as Port-Royal, t'as Winterfell.
Ouais, mais au début de l'histoire, c'est ça. C'est pas. On verra après comment.
Ouais, puis
Parce que
t'as aussi.
plus la saga avance, quand même, plus l'auteur c'est. Enfin, se disperse et il y a tellement de personnages à suivre un peu partout sur la carte au bout d'un moment que.
Tu veux dire qu'ils vont avoir du boulot?
Ouais, je sais pas comment ils vont
Ouais.
faire la fin de la série. Enfin, il y a du boulot quand même ouais, pour remettre tout ça en place.
Enfin, lui, il garde un œil sur tout ça, donc c'est bien. Puis
Non.
les acteurs sont super bien choisis. Ned Stark qui est Boromir, je
Ouais, ça
connais
fait
pas son.
bizarre quand même de voir Boromir en Ned Stark, mais bon,
Ouais,
c'est.
mais ça lui va super bien.
Mais ça lui va bien, puis en même temps.
Et par contre, j'ai eu écho de. Quoi?
Non, non, j'avais failli faire une révélation.
Vas-y, non.
De toute façon, il va pas filmer beaucoup d'épisodes. Hein.
Bah
Il aura le même destin que Boromir.
Ah ouais.
Ah
Ouais,
ouais.
j'avais oublié
Ah
ça,
ouais.
qu'il y avait même
Ah
ce.
ouais, parce que moi, ça sert. Alors, ça, c'est un truc trop fort, je trouve, dans
C'est le
cette
seul de la communauté qui arrive pas au bout.
série. Ouais, parce que j'ai. Ouais, voilà, bah là, c'est pareil. Et
Voilà.
parce que. Non, mais par contre, c'est assez particulier parce que le bouquin, forcément, bon, ça fait longtemps que j'ai commencé. La saga est pas terminée, mais de voir cet épisode, on se dit, ah ouais, tiens, il y avait ça et ça. Puis il y a un paquet de personnages. Oh bah, dis donc, je les avais oubliés avec le temps.
Ouais, tout à fait.
Tellement ça va éliminer sec.
Et puis, tu as des personnages secondaires que tu ne considères pas comme importants. Comme le Greyjoy là qui est à Winterfell.
Donc on voit à peine
Con
au début. Ouais,
ouais,
mais
on le voit
là.
quand même un peu.
Ouais.
Mais tu dis, bon voilà, c'est un laquais. Et en fait, il a.
Ouais, mais au bout d'un
Ah,
moment.
je me tais, je me tais. Et vous verrez bien plus tard. Sinon, quelques petites incohérences. Bon, vous le saurez très vite. Il y a une histoire avec des loups. C'est-à-dire que dès le tout début de la saga, des loups, enfin, on trouve des loups.
Les loups,
Pour
les gros loups du nord, là, je sais pas comment ils
ouais
s'appellent.
qui bah alors c'est des direwolves qui ont été traduits par loup-garou en français. Ils on les retrouve pas en fait. Chaque enfant du clan
À son loup.
a son loup et on les retrouve pas. Enfin il y a une petite histoire au début puis après on les voit pas. Bon ça c'est pas grave.
On sera obligé de les revoir, forcément, par rapport à l'histoire.
Ouais mais au bout d'un moment tu les perds de vue quoi. Alors que dans le livre, mais bon, ça c'est pas très très grave.
Ouais,
Globalement, c'est super bien fait.
c'est plus,
Y a pas de
c'est-à-dire que c'est
problème.
plus dur à demander aux loups de vraiment faire ce qu'ils doivent faire dans le
Oh,
film.
c'est des gros chiens.
Dresser les loups.
Sinon, on peut peut-être parler de la traduction. Qu'est-ce que t'en as pensé? Puisque toi, tu l'as vu quand même en français, non?
Non, j'ai regardé en VO.
Ah bon? Ah, toi aussi, t'as un oncle d'Amérique qui t'a envoyé le...
ouais,
la Metacam.
Ouais, ouais. C'est super bien.
Toi aussi, t'es abonné à la VOD de HBO.
Bah ouais, c'est plus pratique, hein, j'aime beaucoup mieux.
Donc, il y a déjà cette dichotomie dans la traduction des bouquins. C'est-à-dire que le traducteur des ouvrages, c'est quelqu'un qui est spécialiste, alors pas du Moyen-Âge, mais des années du 18e siècle, je crois, et qui n'est pas à la base un traducteur de heroic fantasy, mais vraiment un historien. Et est arrivé là-dedans, il a fait une très bonne, a priori une très bonne traduction des livres, mais pas du tout heroic fantasy, c'est-à-dire quand il parle de loup-garou, ben, ça colle pas super bien avec, avec notre vision des choses. Et même façon, il y a un des personnages clés qui est Tyrion Lannister, qui est appelé le lutin. C'est tout à fait cohérent dans le contexte. Mais par contre, pour maintenant, ça colle pas du tout. Parce que en anglais, c'est de imp et bon, voilà, ou triple. Enfin, c'est.
Ouais, mais enfin, je sais pas. Le imp, je trouve, c'est plus péjoratif encore.
Mais lutin, c'est pas péjoratif, c'est ça le problème.
Ouais, mais enfin, par rapport à l'intelligence du personnage, ça me choque. Et par rapport au fait qu'il est pas si méchant que ça, de imp, je trouve que c'est.
Ouais, ou c'est moi alors.
Peut-être parce qu'on a pas. Peut-être que pour les Anglais, de imp, c'est pas aussi méchant que. Je sais pas.
Ouais, ou c'est pour moi, lutin, c'est pas très très. Enfin voilà. Le Trône de Fer, le jeu de plateau, c'est un jeu de société de 2003 qui est dans le top 100 de Board Game Geek. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, 12 ans et plus.
Donc, le jeu reprend bien les principes du livre, à savoir la lutte d'influence entre les principales familles de Westeros.
Ça reprend la carte, déjà.
Bah, forcément, ça reprend la carte, évidemment.
Il faut te dire que c'est un jeu...
J'allais dire, donc c'est un jeu pour donc 3 à 5 joueurs, idéalement que 5 joueurs, on en reparlera. Ça met donc les familles, donc il y a les Stark au nord, il va y avoir les Lannister à l'ouest.
Les Baratheon à l'ouest.
Les Baratheon, bah oui, à l'est du coup, mon grand, c'est là l'est. La carte n'est même pas à l'envers, mais bon, c'est difficile.
Alors,
c'est les quoi? C'est les Martell? Les Tyrell?
Non,
C'est les Tyrell. Et les Martell, c'est après, là, c'est quand on est dans l'extension. On reviendra après dessus aussi.
Donc voilà. Oublié les pikes, non? Les pics.
Ah ouais, et puis elle est...
sur leur île.
Les Greyjoys.
Les Greyjoys.
Pour parler en français. Alors, la carte, elle est découpée en plein de petites...
régions.
Régions. Les régions vont pouvoir permettre aux joueurs... En fait, ils vont devoir gérer des armées, évidemment. Avec les armées, ils vont s'attaquer. Et donc, les régions vont leur permettre d'obtenir du ravitaillement pour maintenir leurs armées, ou bien des villes qui vont leur permettre de recruter... et puis il y a aussi des régions qui rapportent tout simplement des points de pouvoir.
Des points de pouvoir, c'est des points de victoire?
Non, alors justement, après dans le jeu, il y a toujours trois choses à gérer. Justement, son ravitaillement, le nombre de villes, il faut conquérir un certain nombre de villes pour gagner.
Mmh.
Il peut y avoir une victoire, d'ailleurs on meurt subite là-dessus, quand quelqu'un contrôle, je crois, 7 cités. Et puis il faut gérer donc les points de pouvoir. Alors, le ravitaillement, ça va permettre...
D'avoir des armées.
De maintenir un certain nombre d'armées, voilà. Et donc, c'est représenté par des tonneaux sur la carte.
Mmh.
Ce que j'ai pas dit, ce qui est dommage, et quand même, on va essayer d'aller dans l'ordre. En fait, au début de chaque tour, on va retourner des cartes qui vont être des événements. Et sur ces cartes événements, il va y avoir par exemple justement le ravitaillement ou le recrutement. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va vérifier sur la carte ce qu'on a en ravitaillement. Donc, ça sert à rien. Enfin, on peut très bien se retrouver à un moment à pouvoir contrôler énormément de tonneaux, donc pour le ravitaillement et de pouvoir avoir plein de grosses armées. Mais si. La carte ravitaillement n'arrive qu'à un tour où malheureusement on s'est fait un petit peu balayer, ben c'est tant pis pour nous. Après, il y a les points de pouvoir. Les points de pouvoir, ils servent aux enchères. Donc en fait, de temps en temps, il y a le jeu des trônes qui est déclenché. Et il va y avoir il y a trois rôles en fait qui vont pouvoir être pris et qui vont être aux enchères par des points de pouvoir.
Et ça aussi, ça n'arrive que lorsque la carte apparaît ou pas?
Ouais.
Ouh.
Et oui, c'est important. Donc il y en a plusieurs. Il y a le trône de fer qui permet de gagner les égalités dans le jeu, et de trancher, sinon même quand on n'est pas dans l'égalité. Il y a l'épée, les fiers.
Ça va trancher, chérie.
C'est ça. Alors après, il y a l'épée, ça tranche encore plus. Ouais. Et là, ça tranche dans les combats.
Et le troisième, alors le...
Donc c'est le corbeau.
Le corbeau.
Qui reprend en fait les messagers, donc ça va permettre d'avoir une influence sur les ordres. On va pouvoir donner plus d'ordres spéciaux, et puis on pourra même changer un ordre pendant la résolution des combats. Enfin, des ordres. Alors...
C'est triché, ça, non?
Non, c'est normal. Il faut payer, il faut avoir l'enchère, il faut le premier. C'est quand même, ça, c'est quand même pas facile. Donc, justement, on parle des ordres. En fait, donc, le jeu, donc, le tour, on révèle d'abord les cartes événements qui vont avoir une influence sur le plateau. Ensuite, on va donner des ordres. Donc, les joueurs vont mettre secrètement des ordres sur leurs armées. Ça ressemble un petit peu à diplomatie. Alors, on note pas sur un papier, on met un jeton sur le plateau. Mais c'est pareil, on va pouvoir dire à l'armée qu'elle peut aller attaquer, qu'elle peut faire un raid, qu'elle peut soutenir une unité à côté. Ensuite, quand il y a des combats, donc ensuite on résout tous les ordres. Et quand il y a des combats, on compte la force des armées, évidemment. Elles ont, on regarde combien il y a de pions dedans, etc. Ça donne la force. Et les joueurs peuvent en plus jouer des cartes qui vont pouvoir leur permettre de booster un petit peu les armées.
Un petit peu à la dune.
Un peu à la dune, ouais. Mmh. Donc il peut y avoir une petite partie de bluff. Chaque maison a son propre paquet de cartes. J'aurais dit 7 de mémoire dedans, il y a peut-être 10.
Et toutes un petit peu différentes.
Et toutes sont différentes, ouais. Donc elles se jouent pas de la même manière. Donc là, il faut avoir joué plusieurs fois le jeu pour maîtriser, compter un petit peu ce que les adversaires ont joué, etc. Donc il peut y avoir une petite part de bluff.
Ouais, globalement, il faut, enfin, les maisons sont toutes, par leur localisation géographique, par leur façon d'être jouées, très différentes les unes des autres. Enfin, sont assez différentes les unes des autres. Ouais. Sont, donc ça,
et c'est pioché
au niveau de la rejouabilité. Et c'est pioché au hasard, sauf si j'ai déjà fait les Baratheon 15 fois et je veux plus.
Ouais, mais dans ces cas-là, on peut s'arranger, mais. En même temps, du coup, tu peux gagner comme ça.
Ça si dépend, tu ça dépend t'as combien. On peut s'arranger, mais.
Ouais, bah, faut payer, quoi.
Voilà.
cet aparté mis à part. Autre concept dans le jeu, c'est qu'il y a donc l'histoire de l'invasion des sauvageons qui va arriver.
Oui.
Et quand ça arrive, il faut pouvoir donner. Les joueurs vont être invités à donner des points de pouvoir pour en fait ça représente le nombre de d'hommes qu'ils envoient à la garde de nuit pour garder le mur.
J'ai pas parlé de la garde de nuit.
Et ben voilà, on va en parler. Donc dans le livre, il y a le mur de glace qui fait 30 mètres de haut ouais. Au nord et qui pour garder parce que une fois ou deux déjà Westeros s'est fait envahir par les sauvageons, ils ont donc mis en place ce mur et puis ils mettent en place une armée la garde de nuit, mais avec le temps plus personne, avant c'était l'armée était importante, etc. Et puis petit à petit, les années passent, la menace ne semble plus vraiment réelle, du coup les gens oublient et il y a de moins en moins de monde sur le mur et ouais. Ne sont envoyés là-bas finalement que les repris de justice.
C'est ça, les voleurs, les violeurs.
Voilà, il y a une bonne ambiance là-bas.
Enfin, ouais. Voilà. Des gens qui ne reviendront pas. Donc un système qui ressemble un petit peu à celui du Kingsburg où il y a une attaque de sauvage à la fin de la saison et où il faut s'y préparer.
Voilà, et forcément les joueurs, bon ben bah, les points de pouvoir, du coup il faut bien calculer où est-ce qu'on va les mettre. La partie donc se termine de deux façons, ou bien quand un joueur contrôle cette cité.
C'est mal.
Et puis en général, enfin bon, on verra après, ça génère un effet. Quand un joueur commence à arriver à 5 ou 6 cités, il va se prendre les 4 autres joueurs sur la tronche.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est mal.
Voilà, et sinon bah du coup on dit tour et c'est à la fin du 10e tour, donc il faut pas rater. C'est celui qui contrôle le plus de cités.
Oui, donc c'est typiquement un jeu de négociation. On va se chercher des amis.
Mais ça dure jamais bien longtemps.
Ouais, c'est ça. Oh bah des fois un petit peu quand même.
C'est bien le jeu des trônes, Game of Thrones.
Ouais,
en
c'est
anglais
ça.
Le titre, c'est ça.
Et en général, c'est celui qui est bien en tête et qu'on voit arriver, sur lequel on va tomber à bras raccourcis. Et pendant ce temps-là, ben celui qui aura le mieux préparé et qui sera un petit peu à l'écart et qui va pouvoir tirer ses épines du pied, ses marrons du feu.
Ses épingles du jeu, ouais. Voilà.
Choisis ton
ton alors, proverbe. Petit A.
Donc, c'est celui qui sera le mieux placé en dehors de cette bataille-là, qui va un peu tirer les marrons du feu et qui va lui arriver à gagner. Mais bon, j'aime beaucoup. C'est dans le top 100 de Board Game Geek.
Un format réduit, hein, en 3 quarts d'heure à peu près.
C'est ça.
On en fait
1%. En 3-4 heures, quoi.
Voilà, faut 3-4 heures pour faire le jeu. Faut une bonne soirée devant soi, mais c'est sympa. Enfin, là, au moins, il y a l'affrontement direct, quoi. On pourra pas dire.
La castagne.
Ouais, c'est pas comme les jeux allemands où des fois on est déçu parce que ça se remet puis y a rien. Non, là, il y a vraiment 1% d'argent.
Oui, et puis la partie négociation, c'est un jeu de pute, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui va.
Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ce qui est bon aussi.
C'est ce qui est
non,
bon,
mais dis-le, mais assume-toi.
C'est vraiment le genre de jeu que j'aime, mais c'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas.
Ouais, il faut choisir les gens avec qui vous jouez à ça.
Et puis, il faut bien que tout soit dit dès le départ. Hein. Un engagement, ça n'engage jamais rien.
C'est
hein.
Ça.
C'est un fou. Faut savoir trahir au bon moment. Mais c'est difficile, on peut jamais être tout seul contre les autres. Il faut toujours être à plusieurs. Enfin, c'est très dur.
Ou alors il faut se laisser complètement oublier et puis faire son petit bonhomme de chemin et puis après,
ouais,
après mais ça
c'est
pas non plus.
Ouais, il faut surgir au dernier tour, mais c'est impossible. Enfin bref, c'est difficile. J'ai jamais gagné. J'admire ceux qui y arrivent.
Ensuite,
il y a eu deux
extensions.
Ouais, parce que c'est toujours pareil. Un jeu chez Fantasy Flight sans extension, c'est pas un jeu.
Bah, c'est-à-dire que quand ça commence à rapporter de l'argent, il faut bien quand même rentabiliser l'idée.
Ouais,
quand même.
Le jeu est bon, mais effectivement, les extensions permettent d'enrichir le jeu.
Oui, oui, et puis en plus, la première extension, si je ne m'abuse, elle règle un problème, c'est que tu as une carte pour 4 joueurs.
Non, perdu. C'est la deuxième extension.
Oui, la deuxième extension.
Donc la première extension, c'est la bataille des rois. Alors les extensions portent les noms en fait des bouquins français. Donc le trône de fer évidemment et ensuite la bataille des rois.
Oui, mais
en anglais non, en anglais ça s'appelle pas comme ça.
Non mais c'est pas ça. C'est en fait si tu veux le premier s'appelle le trône de fer, le deuxième s'appelle le donjon rouge et le troisième s'appelle la bataille des rois.
Ouais mais donjon rouge ça pétait pas.
Oui, mais c'est à dire que le trône de fer le premier en anglais qui est constitué du trône de fer et du donjon rouge. Et après, t'as A Clash of Kings, la bataille des rois, qui a trois bouquins différents. C'est ce que tu expliquais en fait tout à l'heure. Donc en fait, ils ont repris le nom français des bouquins anglais.
Ah d'accord. Mais à condition que ce soit des noms qui pètent pour un jeu. Donc la bataille des rois, c'est pas mal.
Première extension.
Donc voilà, première extension. Alors elle ramène de quoi pouvoir jouer à 6 joueurs. Avec un plateau qu'on met par-dessus le premier.
Si vous trouviez que la partie n'était pas assez longue et pas assez.
inviter un sixième joueur petit peu pour venir fesser les cinq autres. Alors, le truc, c'est que j'aime pas trop. Par contre, ils ont mis des cartons sur le plateau de jeu original.
Ouais.
Ils auraient quasiment pu rééditer un plateau. Je pense que c'était plus simple. Mais bon. Chut. C'est pas gentil. C'est donc la maison Martel qui rentre en jeu pour le sixième joueur 1.
Mais tu veux payer tes extensions 60 euros?
Bah regarde le prix, l'extension elle est quasiment au prix du jeu de base, hein, donc très franchement je pense pas que ça aurait coûté plus cher. Ça aurait peut-être renié un petit peu la marge de Fantasy Flight, mais qui doit quand même être confortable. Donc les autres règles qui rentrent dans le jeu, il va y avoir des nouvelles cartes pour les maisons, donc avec des nouveaux effets, enfin ça va changer un petit peu pour ceux qui connaissaient trop le jeu de base, ça va amener un peu de variantes pour surprendre un peu les joueurs, etc. Alors, les amener à jouer différemment. Donc ça c'est très bien. Ensuite les autres variantes, il va y avoir des fortifications pour mieux protéger ces villes, des tours de siège, des engins de siège qui vont permettre de mieux prendre les villes, c'est super. Je les ai pas testés donc je sais pas si ces deux règles se complètent bien ou au contraire s'annulent. Règle par contre très importante, c'est celle-là je l'intègre dès le départ dans le jeu de base, c'est la gestion des ports de Westeros. En fait, dans le jeu de base, il y avait un défaut. Quand un joueur contrôle la mer, ensuite, aucun autre joueur ne va quasiment pouvoir venir le déloger. Donc,
Oui, j'en ai fait les frais, c'est pas possible.
Donc, voilà, donc il y a l'introduction des ports qui permet justement de mettre des bateaux d'abord dans les ports avant de les envoyer en mer pour combattre. Ça change. Ça permet de redynamiser toute cette partie-là. Voilà.
Oui, c'est quand même une. Comment dire ? C'est une technique qui semble quand même vachement cheatée par rapport au reste de ce que tu peux faire. Enfin, si tu laisses faire un des joueurs et qui connaît qui tente ou qui connaît cette façon de jouer, c'est bon quoi. Tu peux arrêter de jouer parce que de toute façon il va locker en fait toutes les côtes. Ça va lui donner un bonus d'attaque terrestre et puis c'est pas bon quoi. Cette extension, c'est une extension à tiroir. Donc c'est une extension où tu peux prendre ce que tu veux et tu peux l'appliquer au jeu de base.
Voilà, globalement, ça introduit aussi des nouveaux pions or qui sont à usage unique, donc qui dépendent des maisons, etc. Et bon, une variante pour jouer à 3 joueurs qui est pas. Enfin, qui est anecdotique.
À 3 joueurs ?
Ouais. Et oui.
Ça, c'était la première extension.
Ça, c'est la première extension. La bataille des rois. Voilà. Donc, ça permet surtout de jouer à 6, on va dire. Ça ramène des nouvelles cartes maison, c'est vraiment. Et puis la correction avec les ports, c'est. C'est vraiment les trucs. Important par rapport au jeu de base. Après, il y a d'autres variantes donc, qui sont introduites, qui sont à mettre au fur et à mesure que les joueurs maîtrisent le jeu.
La deuxième extension ?
La deuxième extension, donc, Tempête de l'âme qui l'a introduit un plateau complet. Pour la modique somme de ?
De 42,50.
Voilà,
c'est donc un peu ton plateau,
plus
cher. Il est à 7,50.
Ouais, mais bon, c'est quand même bien. Alors, qu'est-ce qu'elle amène ? Bon, encore des nouvelles variantes, des nouvelles cartes maison pour changer, des fois qu'on soit lassé de précédents sets. Ça amène des nouvelles cartes Westeros avec des nouveaux événements. des cartes sauvageons. Et puis, ça va surtout, ce qui est important, c'est que ça va amener en fait un nouveau jeu qu'ils ont appelé Tempête de l'âme, tout simplement, qui est en fait une nouvelle carte, donc le fameux plateau, et un nouveau jeu qui ressemble quand même pas mal au jeu de base pour 4 joueurs. Et ça, c'est le gros intérêt de cette extension, c'est qu'on peut jouer à 4.
Et donc, c'est moins long.
Ça, j'en sais rien, j'ai pas testé.
T'as pas testé le jeu à 4?
J'ai acheté cette extension pour jouer à 4, mais malheureusement, j'ai pas encore testé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le Trône de Fer, il est marqué 3 à 5 joueurs sur la boîte, mais il est vraiment taillé pour 5 joueurs. Et donc si tu veux jouer à 4, ben, c'est bien d'avoir Tempête de l'âme.
Oui, parce que t'as un plateau qui est fait pour 5.
Un plateau de quoi? Ah, dans le Trône de Fer, t'as un plateau qui est fait pour 5, c'est ça.
Voilà, c'est pour
et
ça
quand
que.
Quand il y a une maison en moins, eh ben, les positions de départ ne sont pas revues, donc c'est moins équilibré.
Ouais,
il y a un
vrai.
Joueur qui a un peu les coups des franches. Alors que là, donc, il y a vraiment un plateau taillé pour 4 joueurs, des règles un petit peu améliorées, enfin un petit peu modifiées. Il faut absolument tester. Alors, on doit quand même retrouver tout le sel du jeu où ça se frite bien.
Bah, t'auras qu'à jouer à ça vendredi prochain.
Faut que je vois. C'est bon. Comme ça, les lundis c'est podcast et les vendredis c'est jeu.
C'est jeu, voilà. Voilà. Moi j'ai la soirée podcast, donc voilà. Ok. Alors, ça c'était le jeu de plateau. Donc pour nous, grande réussite. C'est vraiment. Enfin, les jeux de négociation, de conquête comme ça, c'est, encore une fois, c'est un jeu à l'américaine.
Mais il n'y a que, je pense, pour inventer ce genre de. Genre de jeu.
Fantasy?
Ouais, les Américains, peut-être un petit peu les Français aussi. On a quand même quelques jeux, fois, où ça se frite, on aime bien ça.
C'est pas les Allemands qui vont nous
mais voilà,
un
ça.
Jeu de conquête.
Là où les Allemands sont leaders dans le jeu, là-dessus, par contre, on n'est pas prêts de les voir.
Bah, j'ai l'impression que les Français, c'est plus le bordel, en fait. C'est plus le baston, tu sais, pas la conquête, la baston, quoi. Bon.
Il y a tout.
Ok. Et puis, un petit peu plus tard, est sorti le JCE. T'as joué, toi, au JCE. Enfin, t'as joué au JCE quand c'était encore un jeu de cartes à collectionner.
Donc, en fait, effectivement, c'était un jeu de cartes à collectionner avec, donc à la Magic. Hein, il fallait acheter des starters, des boosters. Éventuellement, il y avait aussi des paquets de base qui permettaient déjà de démarrer un petit peu avec des cartes
préconstruites.
Ouais, c'est voilà, des préconstruits. Et puis, un certain nombre d'extensions hein, qui sont sorties avec le temps. Et puis, ben, en fait. Je sais pas si c'est parce que le jeu n'a pas réussi à se trouver assez à sa place par rapport à la concurrence qui était World of Warcraft et Magic, etc. Mais en tout cas, Fantasy Flight a eu l'idée, que je trouve pas mauvaise, de sortir ça en jeu de cartes évolutif. Alors c'est le premier de jeu de cartes évolutif. Et donc l'idée, c'était de proposer un jeu de base qui contient toutes les cartes, enfin un certain nombre de cartes évidemment, présélectionnées. Il y a toujours les mêmes cartes dans tous les sets de base. Et donc, il y en a suffisamment pour que un ou deux joueurs, je crois, puissent se faire des decks. Donc ensuite, si plusieurs joueurs veulent jouer, il faut qu'ils aient plusieurs sets de base, mais ils peuvent jouer. Et ensuite, une fois par mois, une extension ramène 40 nouvelles cartes. Donc, ce qui permet de faire évoluer ces decks au fur et à mesure. Bien sûr, chaque joueur, du coup, dans ces cas-là, doit acquérir un set, une extension par mois. Ça coûte 10€ par mois. Donc ça fait que ça coûte 120€ à l'année. C'est un budget... tout à fait modeste pour un jeu de cartes de ce type-là.
À collectionner, tu veux dire?
Ouais, par rapport à un jeu de cartes à collectionner. C'est pas cher. Ouais. C'est vraiment, ça permet. Bon, évidemment, hein, c'est toujours un budget, mais bon, quand on aime et qu'on a vraiment l'occasion d'avoir des amis qui jouent à ça, etc.
Quand on aime, on ne compte pas.
Voilà, non mais même. Enfin, je veux dire.
C'est Monsieur Fantasy Flight Game qui doit être content qu'on l'aime à ce point-là.
C'est ça. Après, je sais pas, vu le nombre d'extensions, il y en a presque une quarantaine qui sont sorties maintenant. J'ai jamais joué depuis que c'est devenu un JCE, donc je pourrais pas dire s'il y en a qu'on peut sauter ou comment on fait quand on veut s'y mettre maintenant. Est-ce qu'il faut qu'on se rachète les 40 extensions? Là, dans ce cas-là, ça fait un sacré budget. Je pense pas. Mais non, je trouve que c'est un bon moyen parce que c'est un jeu qui est, de mon souvenir, j'ai beaucoup apprécié à l'époque. C'est un jeu qui est vraiment différent de Magic. Et qui a des vrais choix, et qui a... Alors moi j'avais joué, j'avais un paquet de base et quelques boosters, donc j'ai pas vraiment travaillé la construction de deck, mais il y a vraiment plusieurs stratégies possibles, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir à builder plein de decks différents.
C'était au tout début?
C'est pas au tout début, j'ai l'édition hiver, donc en français ça doit être la deuxième ou troisième extension. Ouais. Je sais plus exactement. C'était D'accord. quand même assez.
Et donc, t'avais pas la boîte de base, mais t'as quand même pu jouer avec une extension et quelques cartes. J'ai pas compris.
Ouais, t'as pas écouté. Alors. Okay. En fait, il y avait des packs de base. Okay. Ah, alors, des packs de base qui fournissaient deux decks.
Je réécouterai.
Oui, je te conseille d'écouter. Ah, mais c'est très cool, ça. Bon, c'est comme du préconstruit.
C'est du préconstruit.
C'est du préconstruit. C'est du préconstruit avec déjà deux pour deux joueurs.
Non, alors je suis sur un site qui s'appelle qui s'appelle La Garde de Nuit, qui est sur www.lagardedenuit.com, qui est le site de référence concernant le roman, l'univers de George Martin. Et donc j'essaie de voir, parce que en fait tu mets le doute sur l'année de création du JCE.
C'est bien. On va voir sur Board Game Geek. C'est le site de référence des jeux de société.
Alors, je t'écoute.
Bah, je sais pas.
Non. Toi, tu disais 5-6 ans.
Non, moi, je disais que c'était plus vieux que ça.
2008.
Le jeu de cartes t'as collectionné 2008.
Tout à fait, monsieur.
Non.
Si. Non, pas du tout.
Fait, mais c'est le JCE anglais, je pense.
C'est ça. Ouais. C'est le JCE qui existe depuis 2008.
En France, le JCE, je dirais qu'il a 2 ans, grand max. Il a dû sortir à l'été, automne, il y a 2 ans. Donc, pour parler du jeu, parce que j'ai dit effectivement qu'il est intéressant par rapport à Magic, il est franchement différent. Un deck se compose déjà de 2 paquets de cartes, en fait. Il y a le paquet complot, et puis ensuite, il y a le paquet, on va dire, normal. Je ne sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Au début de leur tour, les joueurs vont choisir dans leur deck une carte complot qu'ils vont jouer. Cette carte complot va avoir une influence sur le tour en cours. Donc, il faut choisir la bonne par rapport aux cartes qu'on a en main, par rapport aux actions qu'on prévoit de faire ce tour-ci. En sachant que les cartes qu'on a choisies les tours précédents ne peuvent pas être réutilisées tant qu'on n'a pas joué toutes ces cartes du deck complot. Donc, il y a une partie de gestion aussi de ce deck-là à prendre en compte au fur et à mesure de l'évolution de la partie. Le reste du jeu, bon, ça ressemble un petit peu à plein d'autres jeux. Hein. Effectivement, il va y avoir une phase où on va recruter des personnages, des équipements qu'on va leur mettre dessus, etc. On va piocher des cartes, ça va dessus, il n'y a pas de différence. On va aussi, quand une carte est utilisée, on va aussi l'incliner. Ici, on parle d'incliner, on ne parle pas d'engager comme dans Magic. L'intérêt du jeu, en fait, il est que les personnages ont plusieurs caractéristiques et qui vont pouvoir, surtout la phase la plus intéressante, c'est pas une phase d'attaque, on n'attaque pas l'adversaire pour lui réduire ses points de vie, on va lancer des défis. Les défis, il y en a 3 sortes, il y a le défi militaire, le défi d'intrigue et le défi de pouvoir.
Et c'est donc que tu lances un défi, les deux joueurs, toi et ton adversaire, vont pouvoir y participer.
Ouais, en fait, voilà, ça peut mettre à plusieurs, en fait. C'est un jeu qui vraiment, contrairement à Magic, peut tout à fait se jouer à 4 joueurs, par exemple.
Pardon ?
Ouais.
Magic, comment ça, contrairement à...
Magic, tu peux jouer à plusieurs, mais à la base, le Magic,
tu peux jouer
duel.
À 4-5.
Oui, mais c'est pas...
C'est même plus marrant de jouer à plusieurs sur la Magic.
C'est pas le même jeu.
Ah bah non, c'est pas le même jeu, mais voilà. C'est plus marrant.
Donc tu peux pas... Tes decks sont buildés vraiment différemment à Magic, tu vas jouer à 4 ou 5 que à 2.
Tu mets 150 cartes et puis tu mets des trucs que t'aurais pas mis...
C'est la variante EDH de Magic, ouais, qui d'ailleurs sort, j'ai vu, avec un autre nom, mais il commence à sortir Magic, enfin Wizard officialise un petit peu cette variante. Mais bref, on dérive. Donc le défi militaire, ça va permettre, en fait, si on le gagne, de tuer un personnage en jeu, en général à l'adversaire, évidemment. Le défi d'intrigue, ça va permettre de forcer l'adversaire à se défausser de cartes. On rappelle quand même, les cartes en main, c'est une ressource importante, il faut la préserver. Et puis le défi de pouvoir, ça va permettre de gagner des points de pouvoir. La fin de partie arrive quand une maison a atteint 12 ou 15 points de pouvoir. Je ne me rappelle plus. Voilà. Évidemment, quand on lance un défi, on incline donc des personnages pour les mettre dans le défi. On comparera des caractéristiques et les autres joueurs vont pouvoir mettre des personnages en défense pour stopper le défi. Et puis évidemment, on peut jouer aussi des cartes actions qui vont avoir une influence sur les défis. Voilà. Le jeu est très bien. C'est dynamique, plein de choix, plein de possibilités, plein de stratégies différentes. Grâce à ces 3 types de défis.
Le problème, ça va être comment rentrer dedans, quoi.
Comment ça, comment rentrer dedans? On achète la boîte de base du JCE.
Oui, mais il y a 40. Ouais.
Après, les extensions.
Il y a 40 extensions. Alors, le JCE, c'est effectivement en 2008. Depuis 2008. Il y a 40 extensions qui ont vu le jour. Je pense que toutes ne sont plus encore disponibles.
Ah non.
Et ça va être un petit peu. Ben...
Surtout qu'elles n'ont pas du tout tout été traduites en français, puisque jeu français est arrivé un an au moins après le jeu américain. On n'est pas comme Seigneur des Anneaux, hein, il n'y a pas eu de sortie internationale le même jour. Je ne pense pas que ça gêne. J'ai pas assez joué assez longtemps, j'ai pas suivi assez les évolutions du jeu de cartes à collectionner pour me rendre compte si, comme World of Warcraft ou d'autres jeux, les extensions, au fur et à mesure qu'elles sortent, sont plus puissantes que la précédente. Ce qui annihile un peu. Enfin, c'est pas. Des jeux comme ça, ils sont pas faits pour durer. Bon, je pense que le Trône de Fer, vu qu'il dure, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans ce travers-là. Et donc, on n'est pas obligé, je pense, d'acheter toutes les extensions au fur et à mesure. Enfin,
Non, non, puisqu'on est
voilà.
abonné à son extension mensuelle, donc il n'y a pas de problème.
C'est ça, mais c'est sûr, on se
Mais,
lance, celui qui se lance maintenant, bah non, il va.
les joueurs ont été bien élevés, bien éduqués. On leur dit, voilà, c'est une extension par mois. Elle est toute petite, alors allez-y, donnez vos 10 euros.
10 euros
C'est
pour
un peu
40
comme
cartes, c'est
World, c'est
rentable.
vraiment comme World of Warcraft, c'est bien, c'est ça. Non, non, c'est bien. Alors là, vous verriez les yeux de Jérémy. Je vais me faire trucider. Ok.
Je trouve que c'est une activité beaucoup plus saine et beaucoup plus enrichissante que World of Warcraft,
Non, je suis.
mais après, c'est un autre débat.
Voilà, c'est un autre débat, mais après, est-ce que c'est un JCC ou un JCE qui vaut le coup? C'est ça, c'est la question aussi. Et
Alors,
donc,
il me
a
semble un peu
priori, tu as
être.
répondu et tu as dit que ça valait le coup.
Alors, en fait, je pense que si jamais ils n'avaient pas fait le JCE, le JCC n'existerait plus.
Oui. Bah, ça évite de courir après les cartes, ça évite. Puisque tu as toutes les cartes
Mais même pour
et...
l'éditeur, je pense que ça simplifie la fabrication, ça simplifie, ça permet peut-être de mieux fidéliser la clientèle finalement, j'en sais rien. Je pense que, enfin, c'est le premier JCE qui est sorti. Pour qu'ils aient sorti maintenant Cthulhu et puis le Seigneur des Anneaux.
Et Warhammer Invasion.
Warhammer Invasion, mais c'est Fantasy Flight Warhammer Invasion? Je pense pas. Enfin bref. Et bien c'est la preuve que ça marche. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, le Trône de Fer, c'était le jeu de cartes à collectionner qui est devenu un JCE. Cthulhu, ils ont fait pareil. Dans la foulée, ils ont fait pareil. Donc c'est que c'est vraiment la formule. Je pense qu'ils perdaient de l'argent, ils n'arrivaient plus à s'en sortir avec le JCC, donc ils ont eu l'idée du JCE. C'est très
Ouais,
bien.
mais il y avait aussi le ras-le-bol des joueurs. Enfin, il y a un moment donné, tu dis, toi, en tant que joueur, t'arrives pas à suivre. Tu
Bah non, c'est ça le
sais
problème.
pas, et puis tu dis, ben, de toute façon, non, je vais pas continuer, je vais essayer d'avoir les cartes, me faire un deck de cette extension, puis de construire quelque chose, et donc tu vas rester sur l'ancienne extension, tu vas pas acheter les nouvelles. Là, en l'occurrence, ben, tu parlais de fidélisation, c'est peut-être ça, ouais, c'est.
Enfin, ça, on l'a pas dit clairement, mais ça s'entend un petit peu à travers nos propos. C'est un jeu de cartes où on construit son deck, c'est-à-dire que c'est une activité très chronophage. Ne pensez pas acheter la boîte de base et puis jouer avec les decks de base longtemps. Rapidement, vous allez avoir envie d'acheter des extensions, de créer vos decks et créer un deck et puis le jouer. Et ben, enfin, il faut le pratiquer régulièrement pour l'améliorer en permanence. Et ça demande du temps à regarder ses cartes, à se dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève, qu'est-ce qui va marche, qu'est-ce qui marche pas, et s'adapter au fur et à mesure des extensions. Donc là-dessus, ça peut vite prendre du temps. Mais ça, c'est un jeu, enfin, ça vaut le temps investi dedans parce que les parties sont tout le temps intéressantes, différentes même d'une à l'autre. Il n'y a pas de raison qu'elles soient toutes, elles se ressemblent toutes. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Olivier qui va nous présenter le jeu de rôle qu'il a pratiqué pendant de nombreuses années.
Tout à fait, Jérémy.
Voilà. Donc tu l'as pratiqué comme maître de jeu et comme joueur.
Tout à fait,
Donc
Jérémy.
c'est pas mal du tout.
Ah, chez Proxy Jeux, nous ne reculons devant rien.
Ah, c'est pas mal. Et donc, ouais.
Donc le trône de fer, c'est aussi un jeu de rôle. C'est la version de SIFRP, Songs of Ice and Fire Roleplay. L'éditeur s'appelle Green Ronin. Et c'est chez Edge également, comme Warhammer Invasion. Je viens de vérifier, c'est également chez Edge. Alors, ce que j'ai pu en lire, parce que c'est un jeu de rôle qui est pas très 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 ancien, contrairement à ce que peut laisser entendre Jérémy.
Tu peux nous laisser l'aîné cette fois-ci ou
Le
bien c'est
quoi?
pareil, tu vas
L'aîné 2?
l'année du jeu de rôle?
Non. C'est un système qui a été créé pour le jeu de rôle, donc c'est pas un système comme on en connaît, des systèmes. Je sais pas comment dire, automatique. Enfin, tu sais, c'est les D20 ou les D100. Là, c'est un système un petit peu exclusif. Donc, au niveau de la création des personnages, au niveau de la gestion des maisons, parce que tous les personnages sont de la même maison. En fait, ouais, tu vas faire un clan. Et puis après, la maison, en fonction de la création du groupe, elle peut avoir plus ou moins d'importance. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal réussi. Il y a des gestions d'intrigues. Des combats de masse. Donc, ça a l'air d'être quelque chose qui est pour ceux qui aiment le trône de fer et son. Quoi?
Non, non, le JCC, le jeu de.
Le JCC, c'est 2002.
Le
Le JCE,
JCC,
c'est
c'est 2002.
2008.
Voilà, c'est
Bon.
tout.
Voilà. Mais t'étais pas en train de regarder pour le jeu de rôle.
Si, mais je vais te le dire.
Je suis
aussi.
Pas aidé. Hein. On est jamais trop aidé. Ouais, c'est ça. Chez Edge, on va pouvoir trouver en français le jeu de base, enfin le bouquin de base, et puis je crois une grande campagne ou une campagne qui s'appelle Péril à Port-Réal. C'est quand même pas très très étoffé, mais visiblement les échos sont pas mal. Alors, de même façon, allez voir sur la garde de nuit, vous verrez plein d'informations sur ce jeu de rôle. Moi, ça m'a toujours posé de problème. Je préfère être dans un milieu que je ne connais pas, un temps, un espace-temps qui n'est pas le mien, pour jouer à un jeu de rôle plutôt que de me mettre dans un Star Wars. Enfin, j'irai pas moi de moi-même jouer au jeu du Trône de Fer. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça c'est les égouts et les couleurs. Mais
non, moi, moi ce que j'ai besoin c'est d'un vrai univers, enfin avec des vraies intrigues, etc. Moi j'adore que quand en tant que joueur ou en tant qu'MJ de toute façon, mais que c'est que dans l'aventure les personnages se fassent happer dans une intrigue dont ils vont avoir du mal à se dépêtrer, à connaître les tenants et les aboutissants. Et je trouve que le Trône de Fer, ça peut tout à fait se glisser dedans. Par contre, la règle de combat de masse et des machins, bon ok, c'est vrai qu'il y a des sens de temps, il y a des gros combats d'armée dans l'histoire, mais est-ce que c'est important que les personnages y participent ou qu'il y ait une règle qui fasse ça, je sais pas, moi je trouve que...
Bah c'est la liberté que t'offre ce jeu de rôle. C'est-à-dire, non, tu t'en fais ce que tu veux, après c'est le matériel qu'on t'apporte.
On revient sur le débat habituel, pour moi, dans ces cas-là, enfin autant faire surtout du roleplay et puis... Le combat, etc. Il a qu'à être décrit par le MJ sans qu'il y ait toute une règle sur tout ça.
Ah, ton bras a d'être tranché.
C'est ça.
Comment ça mais j'ai pas tiré les dés. J'ai fait une super réussite critique.
Tu trouves un bras par terre.
C'est le tien.
Au moment de le ramasser, tu t'es pas sûr que c'est le tien. D'ailleurs, ça commence à pisser le sang.
Bon, après, c'est. Voilà, c'est. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que c'est une bonne chose que tu aies des possibilités. C'est-à-dire que le système soit un système qui soit original avec des possibilités qui soient voilà quoi, c'est ce qu'on attend d'un jeu de rôle. Après, il faut un bon maître du jeu et puis voilà quoi.
Alors, petite précision, la sortie du jeu. Alors, l'écran est sorti en mars 2010, donc effectivement c'est très très récent. Le guide du monde mai 2011.
Il ne croit pas en fait. Hein, c'est...
Il vient à peine de sortir. Voilà. Mais si. Et le Trône de Fer, donc le jeu février 2010. Donc vraiment, ça a tout juste un an. Et Péril à Port-Réal en décembre. Voilà, donc ouais, donc normalement, le guide du monde, première édition, de toute façon, il suffit de lire tous les romans de George Martin. Mais sinon, si vous pouvez acheter le supplément, sorti en mai.
Sachant qu'en général, ils ne font pas démarrer leurs aventures au même moment. Certains maîtres du jeu font commencer ça beaucoup plus tôt ou un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard, peut-être pas, mais plus tôt.
Ouais, il vaut mieux se mettre entre les deux.
Et tu vois, les 15 ans de règne de oui, Robert Baratheon, c'est parfait. Quoi. Parce que tu connais les différentes maisons, tu sais un petit peu comment ça se passe. Tu as des indications dans le roman sur ce qui s'est passé avant.
Sur le passé, ouais.
Et puis, ça peut être intéressant. Bon, encore une fois, c'est pas trop mon truc, mais voilà, le vôtre peut-être. Et puis en préparation, il y a deux jeux vidéo. Il y a Le Trône de Fer Genesis, qui est un simili RTS, donc real-time strategy. Ça sera un petit peu plus dans le genre que Settlers ou Anno 1500.
Moi, alors, ouais.
Finis-moi, s'il te plaît.
Je sais pas, il y en a eu plein. Il y a eu un 1701, je crois. Voilà, un 1400 ou 1500, je sais pas quoi.
Ça sera plus proche de ça que StarCraft.
Mais on n'en sait rien pour l'instant. Enfin, il y a eu le 3 vient de se terminer, ou pas loin.
Oui.
Et il y a un trailer de ça. Ouais, en gros, on n'apprend rien sur le jeu. Quoi. C'est juste une vidéo où qui forge une arme et qui l'amène à un roi qui est sur le trône de fer.
Ouais.
Voilà, en armure. Voilà, c'est super.
Non, mais si. Moi, j'ai des infos.
Ouais, t'as des infos, mais...
J'ai des infos. J'ai des infos de bonnes mains. Des mains des gens qui sont...
Alors après, ouais, on a d'autres screenshots, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Donc, tu peux faire pas mal d'actions plutôt haut niveau pour influencer l'équilibre politique, libérer des otages, des choses comme ça. Et puis, il y a deux phases de jeu. Il y a une phase de paix pour passer des alliances. Ça, c'est pas mal. Et puis après, tu guerrois, la phase militaire.
Mais comment tu... C'est pas un RTS, alors?
Si. Mais d'abord, tu prépares. Civis Pacem, Parabellum.
D'accord, mais tu veux dire, tu... Ouais, mais enfin, dans les Age of Empires, etc., tu pouvais aussi faire des alliances avec tes voisins.
Bah, je sais pas.
Ah, bah voilà. Donc,
en plus.
Effectivement, j'ai des. Juste. Il y a des screenshots, donc c'est vrai que je trouve ça très sympa.
Des screenshots.
Donc, On a une vue en 3D.
Ouh,
c'est bien. Il va encore falloir une grosse machine pour faire tourner ça. Et ça fait penser un peu à Kozak en son temps. On voit vraiment toutes les armées.
Kozak
Non, non, monsieur.
Je continue ou pas tu veux qu'on, juste qu'on mette des screenshots sur le...
Ouais, moi je propose qu'on mette des screenshots pour faire un peu baver
non,
les gens.
Non. Attends, alors, vous l'aurez entendu d'abord dans le prochain jeu.
Il est annoncé pour cet été. Ah, il est développé par... Ah, il est pas senti.
Non, Cyanide.
Ouais, Cyanide.
Cyanide.
Qui est une boîte
canadienne.
A priori, c'est une boîte française implantée à Paris et au Canada.
Ah, j'avais
si
vu.
Tu te reprends tes notes. J'avais...
Donc, il peut y avoir pas mal de traîtrises.
Ah.
Donc, tu peux ne pas respecter tes alliances. Ça, c'est pas mal. Enfin, ça colle bien à ce dont on a déjà parlé au jeu de plateau puis au livre. Et voilà, bon, ça a l'air plutôt complexe, assez original. Bon, on va voir s'ils ont réussi à insérer l'esprit de lutte d'influence et de coup fourré dans l'histoire du trône, qui colle si bien avec l'histoire du trône de fer dans ce jeu vidéo.
Et ça sort sur quelle plateforme ? Que PC ? Bon, c'est le genre de jeu de toute façon qui se prête surtout au PC s'il faut manier par la souris.
La souris, ouais. Et le jeu se déroule avant le trône de fer, et justement, c'est ce dont on parlait. Voilà. Ça s'arrête juste au couronnement de Robert. En tout cas, c'est ça. Et puis, il y a un RPG aussi, qui a. Enfin, il y a 15 jours, il n'y avait pas encore de nom officiel.
Le trône de fer RPG.
Voilà. Et donc, il y a deux personnages qui vont l'idée de l'histoire et qu'on va pouvoir prendre en main tour à tour. Enfin, moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est très scénarisé avec une ambiance qui colle très bien à l'environnement, à l'histoire. Et puis, c'est pas un hack and slash, c'est pas avec les combats qu'on va se faire plaisir. Mais bon, on va pas.
C'est un RPG.
On cherche pas un God of War non plus. Quand on veut jouer à ce type de jeu. Et puis voilà, il cherche à se mettre à la hauteur de The Witcher, du lore quoi.
D'accord.
Et que visiblement George Martin a bien aimé, donc ça peut le faire.
Bon, ça c'est l'argument marketing.
Ah bah non.
Ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est aussi Cyanide qui le fait.
Tout à fait.
Et c'est quand même assez fort.
C'est une boîte franco-canadienne.
Ouais, tu peux le dire, tu peux être sûr maintenant. Ouais. Donc c'est quand même pas bon. C'est-à-dire que la boîte a vraiment investi sur la licence, ouais.
Ouais, mais ils sont partis dans deux sortes de jeux complètement différents.
Non, mais juste
le RPG d'un côté, le RTS de l'autre côté, et qu'après, c'est peut-être qu'ils avaient plein d'idées et que plutôt que de se dire, on va faire un truc un peu hybride,
ouais, c'était parti de là au départ. Ils ont peut-être voulu faire un truc trop complexe, puis après ils se sont dit, on va le séparer en deux, c'est peut-être moins bête.
À trois pattes, le mouton.
Ça, par contre, ça sortira sur PC et sur les consoles HD.
Ouais, et puis.
Donc, pas là, oui.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, surtout, c'est que Cyanide, ils bossent sur un jeu dans l'univers de confrontation, et puis c'est surtout, c'est eux qui ont fait l'adaptation de Blood Bowl. Bon, c'est ça va quoi.
J'ai pas testé Blood Bowl, ouais, je connais très bien, mais voilà. J'ai pas joué. Mais il avait été bien accueilli par la critique et les joueurs. C'est tout ?
Non. Oui, un petit.
J'avais encore un petit truc moi.
Ah ?
Ouais.
Mais tu dis ça devant tout le monde.
Parce que voilà, je suis comme ça moi.
Voilà.
Aujourd'hui, tu fais ma révélation.
Non,
en fait, pour ceux qui seraient. Alors, c'est en fait au fur et à mesure, le trône de fer, c'est énorme, il y a beaucoup de bouquins. Je reviens un petit peu par rapport aux bouquins. Beaucoup de bouquins, beaucoup de personnages. On s'y perd un peu, surtout qu'en général, on a commencé l'histoire à la sortie du bouquin original ou pas loin.
Et qu'on a attendu.
Et qu'on a attendu, donc on oublie des fois une partie de l'intrigue, etc. Il existe une petite application sur nos toujours les merveilleux iPads. Je sais pas s'il y a sur Android, hein, désolé. C'est Game of Thrones Companion. Alors c'est en anglais, mais ça fait le tour des principaux bouquins et ça présente les lieux, ça présente les personnages, ça présente la carte. Donc tout ça pour se rappeler. Donc il suffit de taper le nom d'un personnage sans l'oublier, ça résume pas mal toutes les actions dans l'intrigue du personnage. Alors, bien sûr, Olivier, tu vas me dire...
Mais c'est payant ?
Oui, ça c'est payant, évidemment. C'est 99 cents ou 79 centimes.
Centimes.
Voilà. C'est en anglais entièrement, mais...
Rien, je vais rien dire. Si c'est je vais rien dire.
Non, mais bien sûr. Et sinon, on peut révéler si l'application était mal faite. On pourrait découvrir des choses qu'on n'a pas encore lues dans les books. Et ouais. Alors non. Dans l'application, il y a une seule option. Mais si on dit dans quel bouquin on en est, et du coup, ça ne révèle que jusqu'au bouquin où on a lu. Voilà.
Ben moi, j'ai un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que, comme toi, j'en ai eu un petit peu assez. Et puis, je me suis dit surtout. Je suis en train de lire un bouquin dont je n'aurai peut-être pas la fin, donc je me suis arrêté et maintenant il m'arrive de ne plus me souvenir à quoi correspond quel personnage, enfin, quelle est l'importance de tel ou tel personnage.
Voilà, et donc ça c'est une petite application que je trouvais bien sympa. Bon, elle est assez basique, hein. Sur la gauche on choisit si on veut chercher des personnages, des lieux, etc. Bien sûr il y a un petit champ de recherche ensuite pour taper, et sur la grosse partie de l'écran sur la droite c'est uniquement du texte, hein. C'est tout, hein. Il n'y a pas de visuel, il n'y a rien.
D'accord.
Mais c'est bien résumé en tout cas. Voilà, c'était une petite partie écran dans Trône de Fer,
dans ce dossier. Et puis peut-être une dernière chose, HBO a fait aussi un travail remarquable, comme Orange d'ailleurs. Enfin, si vous allez sur le site, il y a un mini site dédié au Trône de Fer avec des animations qui sont très agréables. Et puis il y a le Viewer's Guide de HBO qui est très sympathique, qui rappelle aussi ce qu'on.
Dans quel ordre il faut regarder les épisodes ? Le 1, puis le 2, puis le 3.
C'est ça, tout à fait. Mais qui rappelle un petit peu les choses. Donc c'est bien, je vous mettrai tout ça sur le site. Voilà, bah écoute, c'était un dossier un petit peu particulier, un petit peu décousu, je sais pas, enfin à vous de juger. Non, on a eu un petit peu de mal ce soir. Mais de toute façon, il faut découvrir le Trône de Fer, il y a plein de choses à voir, comme vous le savez maintenant. Donc suivant vos goûts, vous pouvez vous lancer dans le JCE ou vous lancer dans le jeu de rôle, faire une partie du jeu de plateau, lire les livres, aller voir les bouquins, la série.
Voir la série.
Voilà.
De quoi vous occuper pendant de longues soirées.
Oui, là, l'hiver arrive, mais aussi l'été, notre été arrive et c'est le moment de commencer la saga.
Par contre, vous la finirez peut-être bien dans l'hiver, justement.
Ouais, c'est ça.
Tout ce qu'il y a à lire. Et ben, bonne nuit.
Ouais, mais bonne nuit à toi aussi.
Bonne lecture, bon visionnage, bon jeu à tous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Salut. Le Trône de Fer, le jeu de plateau, c'est un jeu de société de 2003 qui est dans le top 100 de Board Game Geek. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, 12 ans et plus. Tu dors un peu aussi ce soir.
Non, je vais j'essaie de choper ma boîte de Trône de Fer pour vérifier l'information.
Voilà.
C'est ça, c'est tout bon. 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans, c'est très bien. Un jeu de
Reinhard Knizia.
Christian Peterson.
Christian Peterson.
Ouais, il a fait plusieurs jeux chez Fantasy Flight.
D'accord.
Je ne te dirai pas lesquels.
Il fait partie de la team Fantasy Flight. Ok.
Voilà. Bon. C'est tout. Voilà. Donc on a parlé du jeu. Alors donc dans le jeu, on retrouve l'intérêt du. On retrouve tout le piment de la saga.